Chapitre 3. Sur le quai, M. de Rilly s'arrêta et dit à sa femme « Tu as cru l'histoire de ta cousine ?»«
Quelle histoire ?»«
Ma chère amie, elle avait volé ton diamant. »«
Que dis-tu ? » s'écria Mme de Rilly.
« Je dis que la baronne t'avait volé, que la crise de nerfs de sa fille est une invention et qu'elle a compté sur notre simplicité pour se tirer d'un mauvais pas. »
Madame de Rilly le regardait et croyait rêver.
« Mais François, tu divagues. Son explication est des plus naturelles et je me rappelle parfaitement être allée dans sa chambre avec ma bague. Je l'ai même ôtée pour la lui faire admirer de plus près. »
« Je dis et répète que je ne crois pas un mot de son histoire, » reprit-il résolument.
« C'est une rouée et une enjôleuse, car il est sûr qu'elle est charmante. Mais j'ai bien observé ce qui s'est passé et l'expression de désespoir de cette malheureuse enfant ne me laisse aucun doute. »
« Mais alors, Aliette savait donc que sa mère avait le diamant? Comment t'expliquer cela ?»«
Ce qui s'est passé entre elles, je n'en sais rien. Peut-être avait-elle dit à sa fille que tu lui avais donné la bague. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'ombre d'un doute. »
Sa conviction était trop sérieuse pour ne pas ébranler Madame de Rilly.
Mon Dieu, mais si c'est vrai, c'est affreux. Et que va devenir Aliette ? S'écria-t-elle, les yeux pleins de larmes, en pensant à la jeune fille.
Elle est dans une position terrible, en effet, répondit Monsieur de Rilly, aussi ému que sa femme.
Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas l'abandonner. Mais comment lui venir en aide ?
Il faut qu'elle nous suppose dupes d'abord, ce sera un adoucissement à son chagrin.
Oui, mais il faut autre chose pour la soutenir.
Et cette pauvre enfant qui n'a aucune idée de Dieu et qui cherche, reprit Madame de Rilly avec consternation.
Nous pourrions la recommander à Mademoiselle Thérèse, François. Elle trouvera bien le moyen d'arriver jusqu'à elle.
Excellente idée. Allons-y immédiatement.
Mademoiselle Thérèse Plouvel, que tout Brest connaissait, dirigeait un externat. Les bonnes familles de la ville ou des environs lui confiaient leurs filles et il n'y avait pas de maison où elle n'eût de vieilles et solides amitiés. Elle était restée à 18 ans chef de famille, ayant reçu de son père, ancien notaire, qui mourait indemne mais ruiné, la mission d'élever ou de diriger ses 5 sœurs, de les soutenir et, par son travail, de les faire vivre. Dans cette position difficile, Mademoiselle Plouvel ne perdit point la tête. Elle passa brillamment ses examens supérieurs, auxquels elle s'était préparée le cœur tout endolori, en soignant son père mourant. Elle transforma aussitôt en salle d'études le rez-de-chaussée de sa maison. C'était pauvre, humide et laid, mais, en peu de temps, son énergie et son intelligence lui amenèrent une dizaine d'élèves. Dans cette même année, elle prépara sa seconde sœur, qui avait 16 ans, à prendre ses brevets et eut dès lors en elle une aide précieuse et nécessaire. En 8 ans, l'externat très florissant absorbait les facultés des demoiselles Plouvel, qui avaient chacune leur fonction déterminée dans la maison. Mademoiselle Thérèse dépensa, pendant ces 8 années, une somme d'énergie considérable en luttant contre les difficultés matérielles et surtout contre ses goûts, car l'enseignement lui étant antipathique, c'est à force de volonté qu'elle surmontait sa répugnance. Elle avait 25 ans quand un homme honorable, dans une excellente position et vers laquelle son cœur l'attirait, demanda sa main. Toutes ses aspirations secrètes la poussaient vers la vie de femme et de mère. Mais son départ entraînait la complète désagrégation d'une œuvre dont elle était l'âme. C'était l'éloignement, la dispersion de ses sœurs, l'anéantissement pour elle du foyer domestique. Mademoiselle Thérèse n'essaya point, comme tant d'autres l'eussent fait à sa place, d'endormir sa conscience et de suivre ses inclinations, en se leurrant sur le soutien qu'un bon mariage contracté par elle pourrait apporter à sa famille. Un soir, sans que personne le sût, elle alla se prosterner dans une chapelle pour y accomplir le sacrifice absolu de ses désirs et de sa vie.
« Je n'oublierai jamais cette heure douloureuse, » disait-elle 35 ans plus tard. « J'ai versé là des larmes qui m'en ont plus appris sur la misère de l'homme que tout le reste de mon existence. » Son cœur généreux, débordant de chaleur et de vie, puisa dans ce moment désespéré la compréhension de toutes les souffrances et l'indulgence qui en est la conséquence. Dès lors, aucune misère morale ne la trouva insensible. Elle prit le parti de s'oublier, de ne reculer ni devant la peine, ni devant les obstacles quand ils s'opposeraient au plan qu'elle se traça résolument. Or, ce plan consistait à répandre sur le malheur des autres et par tous les moyens à sa portée la bonté exubérante de son âme. Elle courait à la douleur comme tant d'autres courent vers la joie et avec une spontanéité, un élan qui brisait les lois de convention. Au service d'un caractère décidé, elle avait une intelligence prompte, élevée, développée par une culture suivie. D'une nature saine et forte, elle comprenait difficilement les maladifs et s'impatientait volontiers devant les misères de dilettantes. Toutefois, son habitude de la souffrance tempérait ce que, dans une vie heureuse, il y eût eu chez elle d'excessif et d'absolu. Très disposée à dire aux gens qui se plaignaient amèrement des souffrances de l'esprit « Mes bons amis, commencez par mourir de faim, je vous plaindrai ensuite. » Elle entrait cependant en eux et, tout en les morigénant, découvrait dans son cœur, même dans ses souvenirs, le mot qui frappait juste. Mais quand un malheur réel et poignant passait à sa portée, elle n'avait aucune réticence, aucune hésitation. Elle allait à lui aussitôt, sans réflexion, se souciant fort peu d'étonner ou de recevoir, au premier moment, les froideurs décourageantes d'un esprit irrité ou défiant. Elle accueillit Madame de Rilly, qu'elle avait eue plusieurs mois dans sa classe, quelque 38 ans auparavant, en la serrant dans ses bras. « Ma chère Marthe, je suis toujours contente de vous voir. Qu'y a-t-il pour votre service, ou me faites-vous une simple visite ?» Les yeux intelligents, bruns et un peu bridés de Mademoiselle Thérèse, regardaient droit devant elle. Sa bouche était facilement souriante et ses manières avaient l'exubérance de sa vie morale, active et militante. « Nous pouvons tout dire à Mademoiselle Thérèse, François. Il vaut mieux qu'elle connaisse la situation. » « Encore une misère, n'est-ce pas? Mes bons amis, j'en ai tant vu que rien ne peut plus m'étonner. Racontez, racontez, vous savez que je suis une tombe. Avez-vous entendu parler de Mademoiselle de Sarzac? Une petite merveille, elle a 15 ans et un talent extraordinaire. Les 15 ans étaient une invention de sa mère, elle en a 19. Elle est charmante et entre les mains d'une coquine ou d'une déséquilibrée. » Monsieur de Rilly, après avoir parlé de la lettre qu'ils avaient reçue et de la réputation de Madame de Sarzac, à laquelle il se reprochait de n'avoir pas ajouté foi plus tôt, raconta l'incident du diamant. « C'est bouleversant !» s'écria Madame de Rilly. « Je ne puis pas encore le croire. Son explication était tellement naturelle. » Songe à l'expression désespérée de la pauvre Aliette, qui ne m'a point l'air sujette à des accidents nerveux, répondit son mari. « Je n'ai aucun doute. » « Moi non plus, étant donné la lettre que vous avez reçue, » répliqua Mademoiselle Thérèse. « Hé, la malheureuse enfant! Il faut que je la voie, que je devienne son amie, que je l'encourage. » « C'est ce que nous voudrions, » répondirent ensemble les deux Rilly. « Je vais ce soir à ce fameux concert. J'irai la voir demain et je me donnerai le ridicule de lui demander son concours pour notre distribution de prix, » quitte à faire un sacrifice d'argent. « Mais nous oublions, » dit Madame de Rilly, « que Jeanne a parlé de partir demain. »« Elle ne partira pas maintenant, » répondit Mademoiselle Plouvel, « si sa fille a un grand succès dont elle voudra profiter. » »« Enfin, ce n'est pas tout. Figurez-vous que cette pauvre enfant n'a reçu aucune éducation religieuse et qu'elle a l'air de chercher, de se tourmenter. » Elle cherche Dieu, mais elle est délicieuse, cette créature-là, s'écria Mademoiselle Thérèse, facile à s'enthousiasmer et toujours prête à s'enflammer quand il s'agissait de pénétrer dans les replis d'une nature élevée. Comment avez-vous fait avec elle? J'avais mis mes livres de piété dans sa chambre. Cela n'a pas réussi, reprit Monsieur de Rilly. Elle vous en a parlé? Elle nous a laissé entendre qu'elle les trouvait stupides, et nous aussi. « Elle est très franche, cette jeune fille, » répondit M. de Rilly avec sa bonhomie naturelle. Mademoiselle Plouvel sourit, car elle connaissait la tournure d'esprit de ses amis et savait de quels aliments leur simplicité s'accommodait. « Vous pouvez compter sur moi. Je m'intéresse à elle plus que je ne saurais le dire, et je mettrai tout en œuvre pour lui venir en aide. » Pendant que s'élaborait ce complot bienveillant, Mademoiselle de Sarzac essayait de surmonter l'accablement qui pesait lourdement sur ses facultés. Elle était encore sur son lit, perdue dans ses idées fixes, quand sa mère entra et, lui montrant le jour qui baissait, la prévint qu'il était temps de s'habiller. « C'est assez pleurer sur un fait dont tu exagères la portée, » lui dit-elle. « Pour moi, je consens à oublier que tu as eu la mauvaise pensée d'accuser ta mère et je ne t'en parlerai jamais. » Aliette ne répondit rien. Elle se leva machinalement et Madame de Sarzac, qui l'observait avec inquiétude, lui demanda « Es-tu remise? Espères-tu être en voie? C'est si important pour nous. » « Je ferai ce que je pourrai, » dit-elle avec découragement. « Voyons, veux-tu suivre un bon conseil? Reprends ton apparence d'enfant. En supposant que ta voix n'est pas ce soir toute sa perfection, tu seras cependant sûre du succès. » Tu sais quel effet a toujours produit le contraste entre ton talent dramatique et ton excessive jeunesse. La petite de Sarzac a sa réputation à soutenir, ajouta-t-elle en souriant. Je ne serai plus la petite de Sarzac, mais Mademoiselle de Sarzac, répondit-elle. Je suis femme et serai traitée comme telle. La baronne, comprenant qu'une lutte sérieuse commençait, sortit avec brusquerie en disant « Comme tu voudras !» Blessée au cœur par cette reprise immédiate de la vie habituelle et par les mesquines préoccupations de sa mère, Aliette appuya en gémissant son front contre le montant de la fenêtre et songea, devant le ciel paisible, « Il n'y a que mensonge et vilenie sur la terre, excepté dans la nature. Quand donc me perdrai-je en elle ?» En voyant le public à ses pieds, son chagrin prit une vivacité extrême. Un sentiment de honte l'étreignit et fit rougir son jeune visage, comme si elle lisait la triste histoire dans tous les yeux fixés sur elle. Elle aperçut ses cousins qui la saluèrent d'un geste affectueux. Peut-être n'ont-ils rien deviné. Cette rapide pensée fut pour elle un allègement, ainsi que l'avait espéré et désiré Madame de Rilly. Alors, cédant au besoin irrésistible d'exhaler sa douleur, elle commença par les sens de Sapho. Et lors même qu'elle n'eût pas su diriger sa voix avec art, le sentiment extraordinairement profond qu'il incarnait au désespoir de la femme abandonnée eût suffi à son triomphe. Lorsque, de sa voix pénétrante, elle prononça le dernier mot, inconsciemment, elle fit un mouvement comme pour franchir, elle aussi, le dernier pas et s'ensevelir dans la mer. Saisie par la pensée du néant, par l'absorption de l'être dans la vie universelle, elle avait l'impression bizarre qu'elle découvrait enfin la vérité. Et pendant que la salle soulevée applaudissait l'artiste, Mademoiselle de Sarzac, qui n'entendait pas, écoutait le murmure éternel des flots refermés à tout jamais sur elle et sa douleur. Elle avait su, sans même y songer, émouvoir jusqu'aux larmes son public, et Mademoiselle Prouvel, le cœur serré, le visage en pleurs, se disait « La malheureuse enfant, comme elle souffre !» Elle seule, dans la foule, entrait dans les sentiments douloureux de la jeune fille et cherchait à comprendre, à deviner sa pensée, pendant que, d'un air distrait, Aliette saluait légèrement le public. Le succès fut éclatant et la baronne, au milieu des félicitations dont elle était accablée, oubliait la catastrophe de la journée pendant que sa fille souffrait cruellement. « S'ils savaient tous, ils s'éloigneraient avec tant de mépris !» Et cette pensée écrasait chez elle l'impression bienfaisante qui, souvent, la transportait loin des réalités vulgaires quand, à son âme d'artiste, répondait la sympathie enthousiaste dont elle avait besoin. Après le concert, M. et Mme de Rilly vinrent la féliciter. Elle les observa et remarqua que, très affectueuse avec elle, il n'était plus naturel en parlant à la baronne. « Ils sont trop simples et trop honnêtes pour savoir jouer la comédie. Ils ont deviné. » Et ce fut, pâle, défaite, qu'elle se laissa embrasser par sa cousine sans oser répondre à sa caresse. En revenant le soir à l'hôtel, Madame de Sarzac exprima son très vif contentement. « Tu as été admirable. Plusieurs personnes ont déjà demandé à t'entendre chez elles. Nous ne pouvons plus penser à partir demain, car je prévois qu'un long séjour ici sera fructueux. »« Plaise à Dieu !» répondit Aliette avec ardeur, pendant qu'une amertume irritée s'ajoutait à sa tristesse. Durant toute la nuit, elle chercha dans sa solitude à réfléchir avec sang-froid. Mais, vivant de nouveau ses impressions, pendant qu'elle unissait ses angoisses à celles de sa foule, elle s'affaissait dans la dangereuse rêverie de l'anéantissement final. Puis la tentation de fuir, d'abandonner sa mère, la sollicita avec force. Elle voulait, en attendant une position indépendante, se réfugier auprès de M. de Sarzac, avec lequel elle était restée en rapport correct. Un instant après, elle renonçait à ce projet et, dominée par l'idée de responsabilité qui, dès le premier instant, lui avait donné la force d'agir, elle se répétait qu'elle seule, en soutenant l'existence de la baronne, pouvait enrayer le mal et empêcher les grandes défaillances. Le matin la surprit au milieu de ces fluctuations qui l'avaient brisée et la première lueur du jour la fit pleurer. « Comme c'est frais et charmant !» se dit-elle. « Pourquoi cette vue achève-t-elle de me déchirer ? Et pas une main secourable auprès de moi !» Dans la matinée, on lui remit un mot affectueux de Madame de Rilly qui lui annonçait la visite de Mademoiselle Prouvelle. Elle pourra vous être d'un grand secours si vous désirez donner quelques leçons pendant votre séjour à Brest, car nous ne pensons pas qu'après votre immense succès, vous songiez encore à partir. Surtout, elle sera votre amie si vous voulez, et il faut le vouloir, chère Aliette. » Madame de Rilly terminait par quelques mots sympathiques pour la baronne et parlait d'une façon très naturelle de la santé de sa jeune cousine. « Ils sont bons, pensa la jeune fille, mais ils ne sont pas dupes. » Elle était seule après le déjeuner lorsqu'une visite lui fut annoncée. Elle vit entrer une femme d'environ 60 ans, de mise simple et inélégante, coiffée d'un chapeau qui paraissait monumental à cause du chignon et de la tresse qui le soutenait. C'était Mademoiselle Plouvel. Elle expliqua à la jeune fille sa position et lui exprima son désir de l'entendre chanter à sa distribution de prix. « Vous allez me trouver bien ridicule, lui dit-elle avec un sourire franc dans les yeux et sur les lèvres, mais chaque année, je fais faire un peu de musique pour cette réunion et j'ai pensé à vous. Ce n'est pas digne de votre admirable talent, chère mademoiselle, et je suis sûre que vous vous dites « Il faut venir au fond de la Bretagne pour découvrir des gens aussi naïfs. Mais que voulez-vous, jamais je n'aurais eu si bonne aubaine et je me suis risquée. » « J'irai, » répondit Aliette, attirée par la physionomie sympathique de Mademoiselle Thérèse, dont la rondeur et la simplicité lui plaisaient. « Comme elle a l'air bon et intelligent, » pensait-elle. « Madame votre mère y consentira ?»« Assurément, » répondit-elle, d'un ton qui prouvait une volonté personnelle. « Quant à la question d'argent, » reprit en hésitant Mademoiselle Thérèse. « Vous la réglerez avec ma mère, » dit Aliette en rougissant. « Ou plutôt, non, réglons ensemble. C'est une question bien importante dans la vie, » ajouta-t-elle avec effort. « Je le crois bien, nous en savons quelque chose, mes sœurs et moi, » répliqua rondement Mademoiselle Prouvel. « Oh, du reste, je me fie à vous. » « Quelle mauvaise commerçante vous eussiez faite !» répondit Mademoiselle Thérèse en riant. « Mais j'étais ainsi à votre âge quand je commençais à gagner ma vie. Je ne puis vous dire quelle sympathie m'attire vers vous, car il y a des analogies très marquées entre votre position et celle que j'avais à 20 ans. Vous permettez bien à une vieille femme de vous parler avec cette liberté. Dans ma longue carrière d'enseignement, j'ai pris l'habitude de considérer tous les jeunes comme mes enfants, » ajouta-t-elle avec élan et un franc sourire. Cette manière d'être me plaît, répondit Mademoiselle de Sarzac. Dans son ébranlement nerveux et moral, un mot de sympathie plus accentué l'eût ému jusqu'aux larmes. Pendant que Mademoiselle Prouvel parlait longuement de sa vie pour amener la jeune fille à parler de la sienne, Aliette, qui devinait ses secrets désirs, eût voulu y répondre avec empressement. mais, en dépit du mot pressant que sa cousine lui avait écrit, sa réserve naturelle l'eût longtemps retenue si elle avait eu affaire à une femme moins déterminée que les obstacles ne décourageaient pas et qui, ayant passé une nuit sans sommeil en pensant à Mademoiselle de Sarzac, avait résolu de briser la porte si elle ne s'ouvrait pas toute seule. Après avoir causé, de façon à se faire bien connaître et à rompre plus d'une barrière, elle ajouta « J'ai vu tant de malheurs, tant d'infortunes diverses. Plusieurs générations ont passé entre mes mains. C'est une école qui apprend à tout comprendre. » « On ne comprend jamais tout, » répondit Aliette à voix basse. « On devine, on sent, quand on entend si bien pleurer avec Sappho. » Son regard intelligent croisa celui d'Aliette et elle reprit « Avant de vous connaître, j'étais attirée vers vous. Monsieur et Madame de Rilly m'ont beaucoup parlé de leur jeune cousine. » Mademoiselle de Sarzac pâlit et croisa les mains avec une expression d'angoisse qui fit déborder le cœur de Mademoiselle Thérèse. Elle entoura la jeune fille de ses bras en disant « Vous êtes malheureuse, je le sais, et je voudrais être votre amie. » Il y avait tant de cœur, de sincérité, d'amour même dans cet élan qu'il eût brisé des résistances plus fortes que celles d'une enfant isolée et au désespoir. Elle prit les deux mains de Mademoiselle Plouvel en disant « Ce n'est pas moi qui pleure, c'est vous, et vous pleurez sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. » « Si, si, je connais tous ceux qui souffrent, principalement les jeunes, en souvenir de ma propre jeunesse, qui a été remplie de souffrances continues, » répondit Mademoiselle Prouvel en dominant son émotion. Et, après avoir attendu quelques secondes, elle reprit en souriant « L'amitié d'une vieille femme peut s'accepter sans crainte, n'est-ce pas ?» Sans répondre, Aliette lui tendit la main. « N'avez-vous pas des amis à Paris ?»« Des amis ?» répéta-t-elle d'un ton amer. « Nous en avons partout. Vous devez savoir que c'est le privilège des bohèmes d'entrer facilement en relations amicales avec toutes sortes de gens. Ces amis-là, je les déteste. Je vous en donnerai d'autres, à commencer par moi. Vous viendrez me voir et vous verrez aussi mes sœurs. Ce sont des femmes admirables dont l'existence se passe à faire le bien. Sans elles, qu'eût été ma vie. Ma maison est laide, mais vous y trouverez tant de cœurs amis que vous ne ferez pas attention à l'extérieur. Sans elles, qu'eût été ma vie. Quand Aliette connut plus intimement Mademoiselle Thérèse, elle se souvint du mot qui résumait si parfaitement les dons d'une nature extraordinairement généreuse. En attendant, elle l'écoutait avec une sorte d'avidité, d'autant que chaque phrase de Mademoiselle Plouvel était prononcée de manière à en doubler la valeur et la portée. Dans sa personne, il y avait une vie débordante, communicative, qui sortait la jeune fille de son accablement. « Vous viendrez me voir bientôt, n'est-ce pas? Sortez-vous seule ?»« Oh oui !» répondit Aliette, qui, habituée à beaucoup de liberté, sourit de la question. « J'irai vous voir demain. Mais j'entends ma mère. » La baronne entra dans le petit salon et Mademoiselle Thérèse se présenta aussitôt elle-même. « Je suis Mademoiselle Plouvel, directrice d'un externat. Tout le monde me connaît à Brest. J'ai eu l'audace de demander à votre charmante fille son concours pour ma distribution de prix. »« Ma fille ne chante pas aux distributions de prix, » répondit la baronne avec une nuance de dédain ironique. « Elle me l'a promis, » répliqua Mademoiselle Prouvel, qui, à part elle, en regardant Madame de Sarzac, se disait « Dieu, quelle créature distinguée et charmante! Qui se douterait de la vérité? Et comme elle a l'air de traiter du haut de sa grandeur cette vulgaire maîtresse de pension !» Mais elle n'était pas femme à se laisser décourager pour si peu. Bon gré mal gré, elle amena la baronne à discuter la question d'argent, fit ressortir tous les avantages qu'il y aurait pour Aliette à entrer en relation directe avec les parents des élèves de l'externat au cas où, séjournant à Brest, elle voudrait donner des leçons et s'en alla après avoir enlevé la position. Mademoiselle de Sarzac médita toute la journée sur cette amitié de vieille femme qui s'offrait ainsi brusquement avec une chaleur irrésistible. Elle reçut des visites d'admirateurs, plusieurs invitations, mais, au grand mécontentement de sa mère, son air distrait dérouta les visiteurs.
« À quoi songes-tu ? » lui dit le soir Madame de Sarzac. « On t'invite de tous les côtés. Monsieur Laffitte parle de l'organisation d'un second concert dans des conditions particulièrement avantageuses. C'est à peine si tu réponds. »«
Vous répondez pour moi. »
Et elle songeait que rien ne l'intéressait comme cette silhouette de Madame Thérèse, avec son haut chapeau sur sa coiffure démodée, l'exubérance de ses manières et son regard intelligent. Pendant que, le soir, réfugiée en elle-même, elle demandait à la majesté tranquille de la nuit une paix qui la fuyait, l'amitié qui s'était offerte à elle se liait dans son esprit au calme que ses désirs anxieux cherchaient depuis longtemps. Un sentiment de confiance la caressait un instant pour la laisser, un moment après, rouler dans l'amertume du présent. Quand elle entra le lendemain chez Mademoiselle Plouvel, elle fut désagréablement frappée par la laideur et la vulgarité de la maison. Un escalier en pierre humide et d'une propreté douteuse desservait les différents étages. Le premier, qu'habitait Mademoiselle Thérèse, était assez vaste, mais meublé simplement et tout imprégné d'une odeur de cuisine. Un peu oppressée, Aliette rêvait tristement dans le grand salon, froid comme un parloir, lorsque Mademoiselle Thérèse entra, la prit dans ses bras et apporta tout à coup tant de vie autour d'elle que les meubles eux-mêmes parurent avoir changé de physionomie.
« Ma chère enfant, quel bonheur de vous recevoir! Vous êtes glacée par notre intérieur, oui, n'est-ce pas? Ah, vous n'avez pas besoin de me le dire, je le vois tout de suite. Vous autres parisiennes, avec vos habitudes élégantes, vous avez facilement des impressions moroses. » Pour nous, nous n'y pensons pas. Nous n'avons pas le temps, d'ailleurs. Mes sœurs sont à leur classe, mais dans un instant, je les prierai de monter.
« Je ne désire voir que vous, » répondit Aliette.
« Alors, causons. »
Et aussitôt, avec son expérience des jeunes cœurs et sa rondeur habituelle, qui eût paru indiscrète sans la légèreté de sa main, elle amena Mademoiselle de Sarzac à parler de ses chagrins et des difficultés dont elle était entourée. Bien que nulle allusion ne fût faite à la cause principale de sa douleur, Aliette sentait que cette cause était connue. Mais Mademoiselle Plouvel pensait les blessures saignantes avec les élans d'un cœur si chaud et si intelligent que la jeune fille réconfortée s'abandonnait à l'expansion. Elle s'étonnait de cette bonté agissante, prime sautière, qui allait tout droit vers une inconnue pour lui dire le mot juste et la soulever au-dessus de la souffrance.
« À quoi pensiez-vous donc quand vous exhaliez avec tant de conviction la douleur de Sapho ?» lui demanda Mademoiselle Plouvel.
« Quelle était dans le vrai ? » répondit-elle vivement. « Rien n'est grand comme ce retour vers la vie universelle qui ne souffre plus. »
« En vérité, » dit Mademoiselle Plouvel en souriant et sans vouloir remarquer l'expression sombre qui avait passé dans les yeux de la jeune fille.
« Je crois, je suis même sûre qu'il y a mieux. »«
Me le prouverez-vous ? » ?»«
Oui, quand vous voudrez. »
Aliette la regarda d'un air anxieux, mais ne fit aucune question et plusieurs jours se passèrent sans qu'elle abordât le sujet qui la préoccupait. Bien que ses sombres pensées fussent forcément distraites par les obligations de sa vie d'artiste et par l'empressement flatteur qu'on mettait à l'entourer, elle retrouvait, aussitôt seule, l'acuité des impressions extrêmes. Alors, en songeant au choc affreux qui, désormais, la séparait pour toujours de sa mère, en pensant à l'avenir de lutte qui la terrifiait, elle recherchait avidement l'idée de l'anéantissement définitif. Toutefois, son amitié grandissante pour Mademoiselle Plouvel adoucissait l'âpreté de sa peine et intéressait son esprit. Entrée immédiatement dans l'intimité de cette famille qui l'avait accueillie à bras ouverts, elle cherchait le mobile de son activité incessante pour le bien. Cependant, elle se tenait sur la réserve et pas un mot n'était prononcé devant elle pour solliciter l'ouverture de ses pensées. Mais un matin que, sortie de très bonne heure, elle rencontra Mademoiselle Thérèse à la porte d'une église, elle la prit par le bras et, l'emmenant sur une jetée, où elle venait fréquemment promener ses réflexions, elle alla résolument au cœur de la question. Expliquez-moi pourquoi, vous si intelligente et si bonne, vous êtes superstitieuse. Pourquoi vous croyez à des choses vieillies qui n'ont plus leur raison d'être ? À la bonne heure, voilà, j'espère, une question directe, répondit Mademoiselle Thérèse en riant. Vous me traitez assez bien et j'aurai mauvaise grâce à me plaindre. Intelligente, il est évident que je ne suis pas une bête. Bonne, je n'avais pas une nature détestable, assurément, mais je proteste contre le mot de superstition, il n'est pas exact. Peut-être que toute ma bonté ne m'eût servi de rien ou eût été enfouie sans la vie. La vie, elle est là, reprit Aliette, qui, tout imbue de vagues idées panthéistes, esquissa un grand geste pour désigner l'ensemble de la nature. Vie et beauté extérieure, oui, mais en soi ? En soi, où est-elle ? Elle est dans le mensonge, les vilnis, les vulgarités. L'homme est horrible. Il n'est bien que lorsqu'il redevient une parcelle de l'univers matériel. Non, répondit simplement Mademoiselle Thérèse en posant affectueusement la main sur l'épaule d'Aliette qui pleurait. La jeune fille regarda longtemps devant elle en répétant « La vie !» Elle cherchait le sens que donnait à ce mot Mademoiselle Thérèse qui, sans rien dire, la laissait méditer. Mais son cœur battait vite car elle se passionnait pour ses jeunes facultés qui cherchaient avec inquiétude la paix dans l'harmonie. « Nous ne comprenons pas de la même façon, » dit Aliette. « Connaissez-vous vraiment une vie qui s'harmonise avec la pureté, la beauté de la nature ?»« Oui, une vie toujours la même, toujours agissante et nouvelle comme la nature, qui est dans l'ordre moral ce qu'est la vie dans l'ordre physique. Je vous la ferai connaître si vous le désirez. Où la trouverai-je ?»« Mon Dieu, dans l'Évangile, tout bonnement, » répondit Mademoiselle Thérèse en souriant. « Oh, si vous me parlez de la religion des Rilly !» s'écria Aliette avec dédain. Mademoiselle Plouvel se mit à rire. « Vous comprendrez un jour que la même étoffe soit taillée en formes différentes. » Mademoiselle de Sarzac rêva quelques instants et répondit « J'ai confiance en vous. Donnez-moi à lire ce que vous voudrez. » Mademoiselle Plouvel emmena chez elle et lui remit un livre en disant « « Voilà, lisez, vous y trouverez ce que vous cherchez. » Elle avait compris la nature d'Aliette et la soif qui l'altérait. Elle saisissait parfaitement que la jeune fille, séduite par la poésie d'idées ambiantes, ne trouvait dans ses idées ni appui certain, ni nourriture forte. Elle savait que son esprit, ni subtil ni raisonneur, s'ouvrirait largement à la pensée divine qui lui était inconnue, et que, aussitôt mise en contact immédiat avec elle, toutes ses aspirations recevraient une réponse exacte. Ses prévisions se réalisèrent rapidement. De même que les facultés d'artiste de la jeune fille s'imprégnaient et jouissaient des beautés naturelles, de même ses facultés intimes, qui souffraient et languissaient, s'ouvrirent à la beauté morale. Elle but à la source limpide sans réflexion, sans discussion, comme une plante qui accepte passivement la vie que lui verse l'action mystérieuse de la sève. « C'est beau » répétait-elle sans cesse à Mademoiselle Plouvel qu'elle accablait de questions. Elle trouvait enfin l'harmonie qui lui avait jusqu'alors manqué, s'étonnant de l'avoir si longtemps ignorée. En même temps, elle découvrait la cause du trouble qui, souvent, avait été une souffrance caressée. Elle comprenait également que si cette souffrance lui était chère, c'était parce que, instinctivement, elle la dirigeait vers le terme de ses aspirations et de ses désirs. En la touchant, la vie chassa momentanément les pensées malsaines qui l'attiraient vers la fin et, désireuse d'agir, elle voulut donner à ses idées nouvelles les assises extérieures qui leur manquaient. Mais elle se heurta aux préjugés et à la volonté de la baronne. « Il ne faudrait plus, lui dit sa mère, que de te voir joindre la bigoterie à ta manie de rêver. Je te défends absolument d'entrer dans les pratiques puériles et superstitieuses d'une religion qui n'est qu'une légende. »« La superstition n'est pas féconde en bien, répliqua sèchement Aliette, et je suis libre. »« C'est ce que nous verrons, répondit la baronne en se contenant. » Elle résolut aussitôt de soustraire sa fille à l'influence de Mademoiselle Plouvel, à qui elle alla signifier sa volonté. « J'ai, lui dit-elle, une manière de voir très différente de la vôtre, et je vous prie de n'influencer en rien l'esprit de ma fille. Je sais que des idées religieuses arrêtées lui feraient du mal et l'exalteraient. » Mademoiselle de Sarzac a sa volonté et sa liberté, madame, et je n'ai découvert en elle aucun symptôme d'exaltation. Vous me permettrez de croire que je la connais beaucoup mieux que vous ne pouvez le faire, mademoiselle. Vous me permettrez également d'insister pour que les choses en restent là. Si Aliette est poursuivie par Dieu, elle sera prise dans ses rets, lui dit mademoiselle Thérèse tranquillement.
Dieu !
Répéta la baronne en haussant les épaules.
« Je maintiens le mot, » répliqua mademoiselle Plouvel avec la même tranquillité qui exaspérait madame de Sarzac.
« Vous n'avez pas le droit, mademoiselle, d'agir contre mes idées. J'emmène Aliette et je vous préviens que je ne veux pas de correspondance. »«
Vous faites fausse route, madame, » répondit nettement mademoiselle Plouvel. « Avec le caractère de votre fille, vous n'empêcherez rien et si vous cherchez à l'entraver, vous hâterez le dénouement. » Au reste, ne vous faites aucune illusion, les idées de mademoiselle de Sarzac sont maintenant arrêtées. Quant à moi, mon influence a été peu de chose, mais soyez assurés que je ne lui refuserai jamais mon appui. »
Malgré sa colère, madame de Sarzac sentait bien que mademoiselle Plouvel avait dit le mot juste en parlant du caractère d'Aliette qui se raidirait devant l'opposition ouverte.
Circonvenir les enfants malgré leurs parents, vous savez, mademoiselle, que c'est une indignité.
Bien gros mot, répondit mademoiselle Plouvel, dont le regard et le sourire franc agaçaient la baronne. Saluant avec raideur, madame de Sarzac retourna à l'hôtel. Sa fille était sortie et elle l'attendit avec impatience pour la mettre au courant de son projet.
Nous partons dans 2 jours, lui dit-elle.
Comment ? Pourquoi ? Demanda Aliette d'un ton contrarié. « Nous devions rester une partie du mois d'octobre, je m'en réjouissais. »«
J'en ai assez de cette vie d'hôtel, et d'ailleurs, nous avons épuisé les ressources de Brest. Aussi, fais tes préparatifs, je me charge d'écrire aux gens à qui nous devons des visites. »
Aliette savait que la discussion n'était pas possible, mais elle regrettait amèrement de quitter brusquement mademoiselle Plouvel.
« Que vais-je devenir sans vous ?» lui dit-elle le matin suivant. « J'avais tant besoin de votre parole et de vos conseils. »
« Pas de découragement, » répondit vivement mademoiselle Thérèse, qui ne pouvait supporter l'ombre même de ce sentiment. « Je vous écrirai, Aliette, et sachez bien que si jamais vous avez besoin de moi, j'accourrai. » Mademoiselle de Sarzac, qui voulait revoir les Rilly avant de quitter Brest, se fit conduire chez eux dans l'après-midi. La poésie du vieux jardin lui parut si mélancolique sous le ciel d'automne qu'elle pleura. Le temps était couvert et brumeux, des feuilles recouvraient la terre humide, un vent violent agitait les arbres sous lesquels elle s'arrêta pour écouter et regarder la mer houleuse. Elle était venue en suivant un mouvement instinctif et maintenant elle hésitait à voir ses cousins. Il lui semblait que la nature seule la comprenait et répondait aux détresses de son cœur. En dépit de l'élément nouveau qui, la vivifiant, commençait à établir l'équilibre dans ses pensées, elle écoutait encore les voix désespérées que l'âme ardente ou profonde entend autour d'elle comme l'écho docile de ses sensations. Elle se perdait dans sa rêverie quand M. et Mme de Rilly, prévenus de son arrivée, vinrent la chercher et lui faire l'accueil le plus affectueux. Depuis le vol, elle les avait revus une fois au milieu d'indifférents. Son désir eût été de leur expliquer sa reconnaissance, ils avaient été bons et délicats, de leur dire les sentiments qui l'oppressaient. Mais elle en sentait l'impossibilité, et combattue par des impressions malheureuses et contradictoires, son regard était si triste que les braves gens, dont le cœur excellent la comprenait, l'accablèrent de démonstrations sympathiques qui dissipèrent une partie de son trouble.
« Et mademoiselle Prouvel, chère enfant, lui dit madame de Rilly. »
« Ah !» s'écria Aliette, dont le visage s'éclaira, « quel bien elle m'a fait !»«
Nous en étions sûrs, » répondirent-ils.
Et, sans oser questionner, ils la regardèrent avec un intérêt dont elle comprit la signification.
« Oui, j'ai trouvé !» leur dit-elle.
« Que nous en sommes heureux !» répondit madame de Rilly en l'embrassant. Puis ils lui répétèrent que ce serait avec un intérêt extrême qu'il la suivrait toujours dans ses succès. « Et enfin, si vous avez besoin de nous un jour, ajouta Madame de Rilly, lorsque Aliette se leva pour partir, vous nous trouverez. Nous serions heureux de vous rendre service. » « Comme vous êtes bon, répondit-elle avec émotion. « Nous vous apprécions et vous aimons, voilà tout, répliqua M. de Rilly en lui baisant la main. Elle monta en voiture et leur fit un dernier signe d'adieu en se demandant si elle les reverrait jamais, s'ils n'avaient point passé dans sa vie comme tant d'autres relations éphémères. Cette impression se fit plus vive lorsqu'elle se pencha pour voir encore les statues brisées et les fleurs de notre temps devant lesquelles tant d'autres avaient glissé et s'étaient évanouies.